Il est 9h30 à Paris, 2h de moins en temps universel. L'actualité africaine, bonjour Xavier Besson.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous. À la une ce matin, la République démocratique du Congo et l'ancien président Joseph Kabila qui annonce un retour au pays. Déclaration écrite de l'ex-chef de l'État et nous avons pu joindre certains de ses proches pour plus d'explications. Dans ce journal également, le Gabon, reportage à Libreville, alors que la campagne électorale vit ses derniers jours avant l'élection présidentielle samedi. On s'intéresse aussi aux conséquences des nouveaux droits de douane américains. Ils sont entrés en vigueur cette nuit. Et exemple, tout à l'heure, illustration avec le cas du Maroc. Et puis dans une dizaine de minutes, le journal des sports, du football ce matin, avec les quarts de finale de la Ligue des Champions en Afrique, mais aussi en Europe. Il justifie sa décision en parlant, je cite, de la gravité de la situation sécuritaire et institutionnelle en République démocratique du Congo. Après plusieurs mois de silence et après environ une année à l'étranger, l'ancien président Joseph Kabila fait savoir qu'il va rentrer au pays. Que faut-il comprendre? On voit cela avec Patient Ligaudy.
C'est une déclaration écrite consultée par RFI dans laquelle Joseph Kabila sort de sa réserve. Il évoque une situation hors de contrôle marquée par la montée de l'insécurité et la déliquescence des institutions et il annonce sa décision « Je rentre sans délai ». Mais aucune date n'est précisée. Selon l'un de ses proches, ce retour pourrait avoir lieu dans les prochains jours par l'est du pays sans plus de précisions. De l'Ituri à l'espace Katanga, c'est toujours l'est de la RDC, indique un conseiller. Sur une éventuelle participation à l'action de la FCM 23 de Corneille Nangaa, la déclaration de Joseph Kabila ne dit rien, mais un de ses proches, interrogé par RFI, n'exclut pas cette hypothèse. Et il répond laconiquement, c'est possible. Ce retour est annoncé alors que le PPRD, son parti, a marqué sa rentrée politique lundi. Un peu plus tôt, le parti avait rejeté l'appel du président Félix Tshisekedi à rejoindre les consultations dans l'optique de la composition d'un nouveau gouvernement dit d'Union nationale.
Patient Ligaudy, des consultations donc qui viennent de prendre fin. Le conseiller spécial du président, qui est en charge des discussions, devrait remettre son rapport au chef de l'État dans les prochains jours. Alors que le président Félix Tshisekedi souhaite un gouvernement d'union nationale face à la situation sécuritaire dans l'Est, les principaux opposants ont boycotté les discussions, à l'exception notable de l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito. Et à propos de la RDC, sachez que le conseiller spécial du président américain Donald Trump, conseiller spécial pour l'Afrique, Massad Boulos, c'était hier à Kigali, après des visites déjà ces derniers jours à Kinshasa, à Nairobi et à Kampala. Massad Boulos, qui estime qu'il y a de bons signes pour la paix dans l'Est congolais, mais qui dit aussi que les États-Unis ne sont pas impliqués dans ce qu'il qualifie de détails en parlant du dialogue entre les parties au conflit. Et puis notez que les trois Américains condamnés à la peine de mort pour leur participation à ce que les autorités congolaises ont qualifié de tentative de coup d'État en mai l'an dernier. Ces trois hommes ont été remis aux autorités américaines, leur condamnation ayant été commuée auparavant en des peines de prison à vie.
RFI à Libreville, 104 FM.
RFI, 8h33 à Libreville, au Gabon. On continue ce matin de donner la parole à tous les candidats de l'élection présidentielle prévue samedi. Vous avez pu entendre, par exemple, ce matin, le candidat Alain Simplice Bungueré. Et alors que la campagne électorale vit ses derniers jours, certains regrettent la tournure qu'a pris la transition un peu plus d'un an et demi après le coup d'État du général Oligui Nguema. Et donc la fin de la présidence d'Ali Bongo. Reportage de François Mazé.
Il est peut-être un des derniers leaders politiques à afficher fièrement ses nombreuses photos avec Ali Bongo. Au sein du PDG, Ali Akbar Onangaï Obégué a lancé une direction dissidente, hostile à la transition. Selon lui, la rupture attendue par le peuple avec les pratiques du régime déchu ne peut pas venir de cette élection.
Cette campagne, c'est une pure supercherie. Toute cette transition d'ailleurs, on le voit, c'est la reproduction de tout ce que les Gabonais ne voulaient plus voir. Une débauche de moyens, de communication comme ça se faisait avant. De toute façon, c'est la caricature de ce qui se faisait avant. Il n'y a pas de changement au niveau de cette campagne. Et donc pour cela, eh bien, il n'y a rien à attendre de la suite qui soit différent.
Ali Akbar Onangaï Obégué ne donne pas de consigne de vote pour samedi. Laisse les militants avec leur conscience. Profil opposé, mais même constat. Michel Ongundu-Lunda est lui un opposant de longue date. Sa candidature a été invalidée.
Là, bon, le CTRI nous a organisé, j'ai envie de dire, un match amical entre camarades du PDG. Tout simplement parce que ce sont tous des hommes du système. Ils sont entre eux. C'est le système qui essaie de se régénérer, qui essaie de survivre. Et le vrai problème au Gabon, c'est un problème systémique. C'est désormais le système Bongo PDG CTRI. Il faut qu'on y mette un terme.
Michel Ngundulunda a laissé sa procuration pour un bulletin blanc. François Mazé, Libreville, RFI.
On prédit beaucoup de perdants, mais peut-il y avoir aussi des gagnants? Alors que les nouveaux droits de douane voulus par le président américain sont entrés en vigueur cette nuit. 104% par exemple pour les produits chinois, mais aussi 47% pour Madagascar, 40% pour l'île Maurice. Certains peuvent se considérer plus chanceux en écopant que de la taxe entre guillemets plancher de 10%. C'est le cas du Maroc. Rabat qui pourrait tirer son épingle du jeu, estime le directeur de l'Observatoire de l'action gouvernementale, Mohamed Jadri, étant rappelé que les échanges commerciaux entre le Maroc et les États-Unis sont relativement faibles. Correspondance de François Humfer Kataji.
Les États-Unis ne représentent que 4% des exportations marocaines, et ce malgré l'existence d'un accord de libre-échange entre les deux pays, qui date de 2006 et qui dans les faits devient caduc en raison de ces nouvelles barrières douanières. Selon M. Jadri, le Maroc, en étant relativement préservé, les produits marocains deviennent automatiquement plus compétitifs que ceux venant d'autres pays, notamment d'Asie, en particulier dans le domaine du textile. Par ailleurs, dit-il, les investisseurs internationaux, au premier rang desquels les Chinois, mais aussi les Européens ou même les Américains, pourrait être amené à investir davantage dans le royaume afin de jouir d'une main-d'œuvre à faible coût tout en contournant les barrières tarifaires les plus strictes. Une position qui n'est toutefois pas partagée par tous les économistes marocains. Zaher Badr Al-Azraq, professeur d'économie à l'université Hassan II, estime lui que la forte dépendance de l'économie marocaine à l'Union européenne pourrait mettre le royaume en position de faiblesse, car si l'Union européenne est affaiblie par la guerre commerciale qui s'annonce, alors le Maroc le sera aussi par ricochet, des positions qui montrent bien la difficulté pour les États de penser une stratégie économique dans un contexte de grande incertitude. François Mfer Kataji, Casablanca, RFI.
On revient maintenant sur ce qui s'est passé avant-hier lundi à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, où l'ambassadeur d'Israël en Éthiopie, Avraham Negizé, a été exclu d'une conférence, décision du président de la commission, Mahmoud Ali Youssouf, alors que la conférence était organisée à l'occasion des 31 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Sur place, Marlène Panara.
D'après un diplomate cité par l'AFP, Avraham Negizé a d'abord participé à une marche de solidarité organisée à l'intérieur du siège de l'UA. Il a ensuite pris place, comme les autres participants, dans la salle dédiée à la commémoration. Mais Mahmoud Ali Youssouf a refusé de lancer la manifestation en présence de l'ambassadeur israélien, raconte un autre diplomate, et lui a demandé de sortir. Un comportement inacceptable, ce sont les mots employés par les autorités israéliennes invitées à réagir par The Times of Israel. Ces dernières vont entreprendre des démarches diplomatiques afin de clarifier la gravité de cet incident. Pas de réaction du côté de l'UA. Contacté, le porte-parole de la commission n'a pas répondu à nos sollicitations. Cet incident n'étonne pas Benjamin Auger, chercheur à l'IFRI et spécialiste des diplomaties africaines, qui avance une continuité de la position historique de l'UA vis-à-vis de l'État hébreu. Le 17 octobre 2023, l'ex-président de la commission, Moussa Faki Mahamat, avait condamné les crimes de guerre israéliens. Et avant même la guerre à Gaza, en février 2023, la diplomate israélienne Sharon Barley avait été expulsée de l'Assemblée de l'UA après des pressions exercées par l'Algérie et l'Afrique du Sud, soutien traditionnel de la Palestine et poids lourd de l'institution. Marlène Panara, Addis Abeba, RFI.
La diplomatie africaine qui pleure aujourd'hui. L'ancien ministre ivoirien des Affaires étrangères, Amara Essi, figure de la diplomatie de la Côte d'Ivoire, est décédé à l'âge de 80 ans. On se souvient qu'il avait été en poste durant toute la décennie 1990, qu'ensuite il avait occupé le poste de secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine. Écoutez ce matin l'hommage de Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal et actuel président de l'Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité et gouvernance.
Il était comme moi très affligé par les crises, les conflits répétés en Afrique. L'incapacité des Africains à s'unir, l'incapacité des Africains à comprendre que nous allions, il tenait beaucoup à ce concept, que nous allions vers un monde des grands ensembles. Il avait la diplomatie quasiment dans le sang et dans l'âme. Amara Issi ne pouvait pas être fonctionnaire assis dans un bureau. Il a fait quand même le tour du monde avec son ami Kofi Annan. Amara Issi était vraiment un humaniste. Il aimait la culture, il a même écrit sur l'Union africaine de la culture. Donc voilà, Amara Issi, c'était un peu tout ça. C'est une grande école de diplomatie, un monument, et j'espère que les jeunesses africaines qui s'engouffrent dans cette carrière de la diplomatie vont apprendre de ses qualités.
Cheikh Tidiane Gadio, joint par Amélie Tulé. Et puis l'on termine ce journal au Cap-Vert, semaine musicale avec l'Atlantic Music Expo, grand salon de l'industrie musicale. Et ce week-end, le Creole Jazz Festival. Mais avant cela, notre envoyé spécial Guillaume Thibault a croisé la route de Leroy Pinto, un chanteur du Cap-Vert, attachant et qui ne prône qu'une seule chose, l'amour.
Sans forcer, avec délicatesse, Leroy Pinto chante avec son cœur et porte à même sa peau son amour pour la musique.
J'ai une phrase tatouée sur mon corps. Je vis la musique et la musique me guide.
Cet héritage musical, Leroy Pinto le tient de sa mère, de la vie quotidienne sur son île de São Nicolau.
Música si mesmo cantando era música de
surtout à la maison, c'était la musique pour faire dormir les enfants. Les chansons vraiment, le gospel et tout ça, c'était à l'église.
Patché par l'oua, pourquoi ailleurs? C'est ainsi que se nomment les habitants de cette île sauvage où la puissance de la nature fait office de protection. Inspiré par le grand chanteur romantique Feu Indolobo, Leroy Pinto appelle à se méfier du paraître, du mensonge et des apparences, à prôner, à diffuser l'amour et le respect.
Je chante surtout l'amour parce que je suis très romantique.
Guillaume Thibault, Praia, RFI.
À Praia, au Cap-Vert, il est maintenant 6h42 et vous êtes avec Clotilde Dumais pour la suite des RFI Matin.